14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. C'est difficile de rester uniquement dans l'instant présent. Je dirais même qu'il faut tout de même un peu se projeter dans l'avenir. Seulement, voilà, nous avons plutôt tendance à imaginer le pire. Ariane Calvo est mon invitée aujourd'hui et elle appelle ça nos angoisses d'anticipation. C'est-à-dire qu'on aura tendance à imaginer le pire scénario. Alors c'est particulièrement vrai évidemment pour les personnes qui sont anxieuses, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui ont peur. Alors elles ont peur de s'engager, elles ont peur d'être abandonnées, elles ont peur de perdre leur emploi, elles ont peur, enfin bref, je vais pas mettre deux heures à évoquer. Et ça ne suffirait peut-être même pas pour parler de toutes les peurs. Alors bon, bien sûr, c'est vrai, l'amour ça fait souffrir, mais à force de craindre le pire, on peut passer à côté de son bonheur, voire même à côté de sa vie. Ariane Calvo va vous aider à vous décoder vos angoisses d'anticipation. Alors si vous avez tendance à imaginer que ça ne marchera pas, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de vous projeter, eh bien c'est le moment ou jamais de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Ariane Calvo.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous durant ces deux heures. Alors c'est vous qui m'avez parlé l'autre jour de ces angoisses d'anticipation. Ça m'a interpellée. Je me suis dit que c'était bien de faire une émission sur ce sujet. Alors vous êtes l'autrice de ce livre, L'autonomie émotionnelle, qui est sorti aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous parlez évidemment de beaucoup de nos émotions, mais là vous parlez d'angoisse d'anticipation. Expliquez-nous.
Alors, l'angoisse, pour moi, la façon la plus simple de le présenter, c'est de se dire que c'est le sentiment d'un décalage entre les attentes que le monde a envers nous, ou que nous avons envers nous, et nos capacités pour y répondre. Et quand elles sont d'anticipation, et bien c'est parce qu'on projette que je ne saurai jamais répondre aux attentes, aux miennes ou à celles qu'on attend de moi.
D'accord, donc ça veut dire qu'on est dans une sorte de spirale d'échec, quoi.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on pense à l'avance qu'on ne va pas réussir à mener à bien les projets que l'on a. Donc, les scénarios peuvent être complètement catastrophiques en cherchant en fait à s'y préparer. On cherche à réussir, mais en faisant ça, en angoissant par anticipation, on se prépare en fait à des échecs. Donc c'est ça qu'il faut désamorcer.
D'accord.
Pour essayer de comprendre comment réussir le mieux possible les choix de vie qu'on fait.
Je crois avoir compris. Ça veut dire que par exemple, on a réussi à avoir un rendez-vous avec la personne qu'on aimerait avoir dans son lit. Hein.
Oui.
Je prends ce sujet là, tout à fait par hasard. Hein. Et on est tellement persuadé que de toute façon on va être nul qu'on est nul, quoi.
Oui, exactement. On est persuadé que l'autre va pas nous aimer comme on est, va nous trouver moche, va pas apprécier notre conversation, et on essaie de se préparer un peu. Et en fait, en se préparant, on crée des inquiétudes là où elles n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que les événements négatifs ne sont même pas encore arrivés, qu'on est déjà en train de les vivre d'une certaine façon.
C'est une sorte de visualisation en négatif, quoi.
Exactement.
Oui, on projette tout ce qui va ne pas aller, et forcément, on va au rendez-vous tellement sûr que ça va pas aller que on est.
Oui. Et ça nous plombe en fait. Je me souviens que j'avais lu une étude très intéressante sur les coming out. Et des psychologues avaient évalué que les coming out, dans 92% des cas, ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus positifs que la personne s'en représente avant de le faire. Ce qui veut dire que simplement on vivait le moment et on se disait bon, j'ai les moyens de répondre aux situations qui vont se présenter au fur et à mesure qu'elles arrivent, on serait 92% plus confiant que si on s'y prépare.
Alors, moi j'ai, dans le domaine professionnel, hein, j'ai une technique, vous allez me dire si c'est une bonne ou pas. Quand j'ai quelqu'un à appeler ou quand j'ai un rendez-vous, je me dis de toute façon, j'ai déjà le non, je ne peux avoir que le oui.
Ah oui, pas mal aussi.
C'est...
Alors, de se dire, le pire, ça peut arriver. Et puis, tant pis, on s'adaptera.
Donc, de toute façon,
ce qui serait intéressant,
ça ne peut que
ça marche. Ouais. Ouais.
C'est peut-être un conseil qu'on peut déjà donner à ceux qui nous écoutent.
Absolument.
Bon, comme ça...
Et l'autre conseil, c'est ma grand-mère qui disait toujours, vous savez, les grand-mères, elles ont toujours des dictons géniaux. Et elle disait, on ne peut pas laver la vaisselle sale de demain. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La vaisselle sale de demain, ça sera demain.
C'est ça, oui, oui. Mais c'est valable dans tous les domaines. C'est valable. On voit par exemple les gens qui sont hypochondriaques. Ils vont faire un examen de contrôle, tout simplement. Ils sont déjà en train d'imaginer qu'ils vont avoir des résultats négatifs, un cancer.
Oui. Et ils se créent des inquiétudes qui sont pas du tout favorables à une espèce de sérénité du corps qui permet d'avancer en santé.
Et quels sont le pourcentage de personnes qui sont donc avec des angoisses d'anticipation plus de la moyenne, j'imagine.
Très très fréquent, oui, pour deux raisons. La première, c'est parce que de façon relativement innée depuis Homo sapiens, on scanne le monde et la vie qui nous entoure en fonction du négatif qu'elle peut y contenir, parce que du négatif pourrait provenir le danger. Donc en cherchant à éviter le danger, comme notre cerveau est câblé pour sa survie, on essaye de regarder tout ce qui pourrait être négatif, même à l'avance. Et puis la deuxième raison, c'est parce que pendant tout un temps, ça a été une façon de faire qui a été très valorisée, par exemple en entreprise. Les gens qui savaient anticiper les risques, c'est même des départements entiers, des banques qui s'appellent le service risque, ou d'anticiper les scénarios catastrophes, ou se préparer aux épreuves qui pourraient subvenir, c'était valorisé. Donc il y a eu toute une espèce de valorisation comme ça, d'une tendance qui était déjà innée en soi,
oui, qui est donc
qui a favorisé ce système-là.
Dans notre cerveau d'humain, Homo sapiens, c'est déjà comme ça.
Exactement.
Et alors, on le voit bien, par exemple, ce principe de précaution qui a été instauré va complètement pour, a priori, rassurer, sauf qu'il bloque tout, du coup, on n'ose plus rien faire. Mm. C'est comme si on disait, de toute façon, l'amour, ça fait souffrir, donc autant ne pas aimer. Mm. Hein, puisque c'est vrai, l'amour, ça fait souffrir, forcément.
En fait, ce qui devrait être valorisé, c'est de savoir prendre des risques de façon intelligente.
Oui, oui, oui. Et tout est... Alors, il est vrai qu'actuellement, le monde est assez incertain. Et les médias sont plutôt catastrophiques. Les nouvelles sont plutôt catastrophiques, etc. Donc, on a quand même tendance à donner, si je puis dire, du grain à moudre à tout le monde.
Oui, mais c'est aussi commercial, parce que quand on reproche ça aux médias, ils disent « mais les bonnes nouvelles, personne ne s'y intéresse ».
C'est vrai.
Donc, si on s'intéressait au monde de façon un peu plus équilibrée, on y voyant le négatif, bien sûr, parce qu'on ne va pas être non plus complètement inconscient, mais aussi en voyant le positif, on aurait une vision juste équilibrée. Ça serait plus intéressant.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire on va bien sûr avoir des appels, je suppose qu'on va en avoir beaucoup, malheureusement, parce que ça concerne
beaucoup
de gens.
Ça va parler à beaucoup de gens. Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez déjà, comme ça, le premier conseil, qu'est-ce que vous pourriez dire déjà à ceux qui nous écoutent ?
Apprendre à se faire confiance. On a énormément de ressources, bien plus que ce qu'on réalise, et essayer de vivre le moment présent en conscience.
Et peut-être aussi être réaliste sur nos capacités et nos désirs, parce que parfois c'est aussi parce qu'on voudrait plus que ce qu'on peut avoir.
Oui, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser sur nos limites, mais nos limites, elles sont aussi contrebalancées par des ressources.
Eh bien voilà déjà un bon conseil, apprendre à se faire confiance. Alors c'est facile quand on n'a pas confiance en soi, quand on manque d'estime de soi. Donc alors à ce moment-là,
il faut
peut-être aller travailler ça justement en tout cas une de vos collègues.
Parce que c'est souvent lié à des blessures en fait. On n'est pas en n'ayant pas confiance en soi. On le devient.
Bah, il est certain que quand nos parents nous ont toujours dit « de toute façon, tu n'y arriveras pas », ça laisse une injonction quand même très prégnante dans
lourde.
Le cerveau.
Oui. Oui. Et qu'il faut se démontrer par la vie qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas réelle.
Mmh. Ariane Calvo est avec nous. Vous avez tendance à être plutôt angoissée par votre avenir. Vous avez tendance à ne pas croire que vous allez y arriver. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Élise, justement.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Ariane Calvo, psychologue, et nous évoquons aujourd'hui les angoisses d'anticipation. Bonjour Élise.
Bonjour Brigitte et bonjour Ariane.
Bonjour. Alors, vous avez tendance à être un peu comme ça
Eh oui. C'est un sujet passionnant. C'est pas fou d'essayer de me soigner, comme je dis des fois. Mais le problème, c'est que moi, c'est surtout sur le plan amoureux que j'ai ce problème-là, que je rencontre cette difficulté. Je me qualifie comme une amoureuse de la vie, et que voilà, je pense être une belle personne, je hôpitaux.
On ne vous entend pas très bien. On va essayer de voir si on peut régler un petit peu mieux le son, parce qu'on vous entend avec un peu de grésillement. Je crois quand même, Ariane Calvo, que dans le domaine amoureux, il y a quand même énormément de gens qui ont du mal parce qu'ils ont tellement peur d'être quittés, rejetés, oui, abandonnés.
Absolument, et surtout en particulier les femmes, en fait, qui sont tellement persuadées qu'elles ne mériteront pas d'être aimées, comme si ça pouvait être une question de mérite, qu'elles se dévalorisent et qu'elles créent, en fait, c'est ce qu'on se disait, ce qu'elles anticipent le plus difficilement. Elles angoissent d'être quittées et elles créent toutes les conditions possibles pour que la personne en ait ras-le-bol. Parce qu'en fait, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on se dévalorise tout le temps et on donne juste les éléments à l'autre pour pouvoir les voir et en avoir marre.
Oui. C'est ça, Élise, vous avez tendance, oui, à avoir peur d'être abandonnée, d'être quittée, qu'est-ce que vous diriez ?
Ah oui, d'être rejetée. Oui, rejetée,
oui.
Oui, oui, oui. Parce que en fait, hormis avec le mari que j'ai eu, mais c'était pas tout à fait... c'était pas le bon d'ailleurs, hein, mais... les personnes qui m'attirent, en fait, par lesquelles je suis attirée,
oui,
ont plutôt tendance à me rejeter de façon générale. Et par ailleurs, je suis fortement courtisée. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, etc. Mais
cela ne vous plaît pas.
Et voilà. Voilà, ouais. Je ne veux plus abdiquer, en fait, juste pour dire que je suis en couple. J'ai envie vraiment à l'âge que j'ai, ben c'est où j'ai quelqu'un avec qui je me sens bien. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un.
Alors, vous avez dit, j'ai peur d'être rejetée. C'est peut-être encore plus fort que la peur d'être abandonnée, je trouve. Hein.
Oui, tout à fait, parce que c'est lié à notre identité même. C'est pas juste l'autre qui nous laisse sur le bord de la route, c'est il nous laisse sur le bord de la route parce qu'on est qui on est. Et c'est ça qui est douloureux dans le rejet.
Et pourtant, vous avez dit que vous étiez une belle personne.
Donc, mais oui, c'est ce qu'on dit aussi de moi. Hein,
mais vous y croyez, vous, que vous êtes une belle personne? Parce que ce qu'on dit de vous, c'est une chose. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez?
Alors, oui, moi, je m'aime bien. Je m'aime beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'abaisser à avoir quelqu'un qui ne me conviendrait pas.
Bien sûr.
J'ai suffisamment vécu ça avec mon mari. Donc, mais voilà, justement,
C'est lui qui vous a quitté, votre mari ?
Ah non, non, c'est moi.
D'accord.
C'est moi qui ai mis... Bon, ça a été très dur, hein, parce que j'ai horreur des ruptures. Mais c'est moi qui ai mis un point à cette histoire. Et...
Donc, il vous avait pas rejeté, malgré tout ?
Oui, enfin, bon, il me conservait pour des très mauvaises raisons. Comme le chat aime la souris, si vous voulez. Donc... Voilà, c'était pas non plus un amour par amour, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un qui pourrait être le bon ?
Ben, je sais pas. Alors, peut-être que c'est moi qui l'ai fait fuir, hein, mais ça s'est pas non plus produit 20 fois.
Ah ben heureusement, parce que vous imaginez si on rencontrait le bon tous les coins de rue.
Oui, oui, oui. Mais à chaque fois, ben, la personne ne va pas plus loin. On a quelques relations intimes, et puis après, ben, ça va pas plus loin. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu quand même tendance à me dévaloriser à l'égard d'un homme. Ça, j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est triste parce que j'en souffre énormément, bien sûr. Parce que d'être seule, c'est pas drôle.
Et vous avez réfléchi un peu sur ce qui fait que vous vous dévalorisez, parce que forcément, ça vient de votre propre histoire.
Oui, oui, oui. J'ai pas été valorisée, ça c'est évident, de par mes parents. Le père ou la mère, bien évidemment. Mais voilà, ça, mon histoire de mon enfance, de ma vie, de ma jeune vie, aujourd'hui, je peux rien. Enfin, je peux pas le changer, mais c'est vrai que je ne sais pas quoi en faire en réalité. Face à cette situation qui a été vécue, qui a imprégné forcément des choses en moi.
Ce qui est toujours difficile dans ce que vous racontez, parce que ce qui m'interpelle, c'est que vous dites quand même que vous êtes une belle personne, que vous vous sentez aimable. On peut peut-être penser qu'il y a aussi, comment dirais-je, une incapacité à pouvoir envisager de rester en couple, comme si c'était pas pour vous. Est-ce que ça vous parle, ça ?
Oui, 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 ça me parle. Et pourtant, alors c'est très bizarre parce que j'ai peur, comme vous le soulignez très justement, et en même temps, j'y aspire beaucoup.
Mais oui. Mais justement, est-ce que c'est ça qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un avec qui ce serait vraiment possible, vous organisez un peu inconsciemment le fait que ça s'arrête rapidement pour ne pas avoir à affronter un rejet qui serait vraiment trop douloureux.
Ou alors vous choisissez des personnes qui de toute façon ne sont pas prêtes pour s'engager avec vous.
Oui.
Peut-être. Oui, c'est... oui, vos deux explications, je les entends et elles font écho en moi, mais problème, et c'est pour ça que cette émission m'intéresse encore plus que les autres que vous faites, c'est que je me dis, ben, est-ce que je vais avoir une clé au moins pour pouvoir me sortir de cette espèce de schéma de répétition. Vous avez utilisé un mot que j'ai beaucoup aimé aussi tout à l'heure, c'est désamorcer. En fait, je n'arrive pas à désamorcer ce que je vis, quoi.
Et c'est un peu la question que soulevait Brigitte en introduction, c'est si on s'interdit de vivre ce qui fait peur, est-ce qu'on peut vivre le bon ? Donc là, c'est quel risque vous acceptez de prendre ? Un risque relativement mesuré, puisque vous dites que vous vous aimez, que vous vous trouvez tout à fait aimable.
Il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut comprendre, Élise, c'est que vous avez choisi un mari qui visiblement ne vous convenait pas. C'est quand même vous qui avez été obligé de le quitter, c'est pas lui qui vous a quitté. Donc, vous voyez, à mon avis, comme ça, dans le peu d'éléments que vous nous donnez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler sur ce que c'est que la notion de couple. Et ça vient certainement aussi par rapport aux croyances que vous avez de ce que c'est qu'un couple.
Peut-être que vous avez choisi quelqu'un comme mari qui vous quitterait pas. Mais c'est pas pour autant que vous l'aimiez profondément. Vous voyez ce que je veux dire?
Je me suis mariée par dépit, parce qu'à l'époque on disait une fille à 25 ans, quand elle avait, j'avais envie d'avoir des enfants. Il y avait tout ce contexte-là, mais c'est pas. Moi, je me suis pas mariée du tout par amour. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, je veux vivre autre chose, mais je n'y arrive pas. C'est toute la complexité de ma vie.
Mais c'est peut-être ces croyances-là qu'il faut aller visiter, ce que c'est qu'un couple, ce que c'est que l'amour, ce que vous attendez de l'autre, finalement. Je crois que vous mettez peut-être la barre un peu haute aussi.
Et puis, qu'est-ce qu'on risque, réellement? De quoi on a peur?
De toute façon, une histoire d'amour, en moyenne, ça dure 10-15 ans. Hein, donc, si vous attendez de rencontrer le bon, comme on dit souvent, vous risquez de le chercher encore longtemps.
Parce que ça fait déjà un moment que je suis seule. Hein, donc,
faites ce travail aussi dans tous ceux que vous avez eus et qui vous ont quitté ou plutôt, je dirais, qui n'ont pas eu envie de s'engager avec vous. Faites une petite introspection et à mon avis, vous verrez bien que vous aviez tous les éléments au départ pour voir que de toute façon, ils ne s'engageraient pas. Et ça voudra dire que vous êtes que vos choix se font de manière à ce que ce soit de toute façon pas possible. Et déjà, si vous arrivez à élaborer ça, peut-être que vous allez faire de meilleurs choix par la suite.
Ou alors identifier les endroits où c'est vous qui faites en sorte que ça s'arrête.
D'accord, bah oui.
Voilà les clés pour retravailler d'ici la fin de l'année. Et puis peut-être que 2024, ce sera la belle rencontre, Élise.
Exactement. Voilà, c'est un beau cadeau que vous me venez de me faire pour un peu à l'approche de ces fêtes. Merci beaucoup à vous deux.
Non, merci à vous. Merci bientôt. Beaucoup. Et justement, puisque c'est bientôt les fêtes, c'est le moment de parler de ce grand sapin de Noël qui est chez nous à Sud Radio et dans lequel il y a plein de. Enfin, dans lequel. Non, c'est pas dans le sapin, c'est au pied du sapin qu'il y a plein de cadeaux. Et je vais avoir le plaisir de vous en offrir un aujourd'hui encore en direct sur Sud Radio. Alors peut-être que vous allez gagner une montre connectée offerte par Sud Radio et la Confédération des Buralistes. J'aimerais bien aussi vous offrir ce coffret sérum beauté, les duos de Garantia. Et puis bien sûr, il y a énormément de cadeaux, mais pour gagner, vous le savez, il faut nous appeler au 0826 300 300 et ce sera le 7e appel qui repartira avec un cadeau.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Ariane Calvo, nous évoquons les angoisses d'anticipation. Tout va aller mal, c'est terrible. Mais non, on va vous aider à déjouer vos angoisses d'anticipation. Bonjour Pauline.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Ariane.
Bonjour.
Oui, alors l'angoisse d'anticipation, comme beaucoup d'anxieux,
Oui.
on est dans à peu près dans l'angoisse d'anticipation pour tout, quoi que ça s'améliore, heureusement, enfin j'espère, avec le temps, avec l'âge. Mais c'est vrai que au niveau sentimental, pendant de nombreuses années, on va dire avant 38 ans, c'était, je voulais toujours vérifier que la personne tenait bon. Donc en fait, je la testais. Je me suis rendu compte que je l'ai testée en posant énormément de questions, en voulant tout savoir du passé, en voulant être sûre que j'étais plus aimée encore que les précédentes relations, ou que j'étais spéciale, ce genre de choses. Et la relation, là, je suis en couple depuis 7 ans. Ouais. Mais avant ça, j'ai une relation qui était très frustrante, avec quelqu'un qui était pas du tout dans la tromperie, enfin, pas que je sache, mais qui était très frustrant, qui se refusait, sentimentalement parlant, sexuellement aussi d'ailleurs. Et du coup, ça m'a presque, pour le coup, ça m'a insécurisée. Que je ne me sentais pas aimée. Et du coup, ça m'a permis, en tout cas, de savoir ce que je ne voulais plus. Déjà, ça m'a permis de me poser cette question-là. Et la relation que j'ai actuellement, je suis dans une relation qui, pour le coup, est bonne pour moi. Enfin, en tout cas, où là, je suis rassurée. Alors, je sais. Et en fait, j'ai réalisé que derrière l'insécurité que j'ai traîne depuis l'enfance, hein, insécurité affective, je me suis rendu compte avec cette relation actuelle que ce que je voulais, c'était l'exclusivité. Voilà.
Oui, mais ça, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce désir-là. Ne pas avoir envie d'être trompée, ça me paraît quand même...
Pas que ça, Brigitte. Je parle de l'exclusivité, c'est-à-dire de pas partager...
Vous voulez dire que vous supporteriez pas, si vous supportez pas ses amis, vous supportez pas qu'il parle à quelqu'un d'autre qu'à vous,
enfin... Non, je pense aux enfants.
Comment ça?
parce que en fait, je sais que mon insécurité, elle est liée aussi à une grande rivalité que j'ai eue avec mon frère.
D'accord.
Une rivalité quasi pathologique, je dirais. Avec une mère très ambivalente, etc., qui a un peu joué sur le je t'aime, moi non plus.
D'accord.
Et quand mon frère est arrivé, j'ai envie de le tuer. Voilà, en gros.
C'est un sentiment d'enfant qui est tout à fait compréhensible et qui est, c'est pas grave, hein, rassurez-vous.
Non. Mais en fait,
vous
avec
l'avez
le
pas
temps,
tué.
Non, je ne crois pas avoir tenté, pas que je sache. Pardon, je me souviens. Mais en fait, je crois que je me suis toujours sentie un peu délaissée par rapport à lui, qu'il était préféré. Et ça m'a accompagnée longtemps. Et du coup, je me rends compte que je cherche encore, que je suis. C'est un peu compliqué, mais je me sens encore un peu en rivalité avec les enfants aussi.
D'accord. Et il a des enfants, votre conjoint?
Ben oui, justement.
Donc c'est ça qui pose. C'est d'accord. C'est ça qui pose problème.
Que j'ai compris sur le.
Quelle
tard,
rivalité
là.
Pourrait y avoir avec ses enfants?
Ben, ça renvoie à la rivalité avec son frère. Mais vous voyez bien que vous parlez.
Mais c'est pas les mêmes plans d'amour, non?
Oui, mais surtout ce que vous devriez bien élaborer, Pauline, c'est que ça renvoie à votre blessure d'enfance qui est toujours pas guérie. Puisqu'elle est complètement présente dans cette sorte de transfert que vous faites avec ses enfants à lui.
Et puis d'une croyance aussi que j'identifie là, qui est que si mon autre donne à quelqu'un d'autre encore, alors il me retire à moi, il me prive de quelque chose, ce qui n'est pas du tout automatique et pas du tout certain.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est complètement infantile, hein.
J'aurais dit immature plutôt, parce qu'infantile, c'est un peu raide. Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Je retrouve l'enfant, en fait. Je retrouve l'enfant je le retrouve très facilement, là.
Oui.
Ce sentiment-là, en fait.
Mais ça vous met très en insécurité quand il donne beaucoup d'attention ou beaucoup d'affection à ses enfants ? Qu'est-ce que ça vous fait ?
Non, je me sens pas menacée, mais je me rends compte que j'ai des réactions territoriales.
Ça vous met un peu en colère ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Mais les réactions territoriales, c'est de la peur.
Oui, c'est en fait, tu fais pas assez attention à moi quand ils sont là.
Vous allez souffrir, hein, c'est bientôt Noël, hein, Pauline. Il va offrir des cadeaux, plein de cadeaux à ses enfants, puis vous, rien.
Non, mais en plus, pour le coup, c'est une famille recomposée qui se passe pas très bien, donc ça aide pas. Mais Oui, justement, tout le monde est en rivalité, finalement. La fille aussi avec moi, enfin,
oui. Mais oui. Ben oui. Mais ça, mais c'est, fait, elle le sent. Elle le sent, de toute façon. Sûr. Donc, elle, c'est un peu vous qui projetez ça. Hein. Elle sent que vous êtes en rivalité avec elle. Et donc, elle se sent agressée et elle est en rivalité avec vous.
Oui, oui, parce qu'elle aussi, elle défend son territoire, qui est son père.
Oui, puis la mère, enfin... Mais... Oui,
vous n'avez pas d'enfant, Pauline ?
Ah, si, si. Ah, bon, moi, il n'y a pas de problème avec les miens, par contre.
Non, bah, ça, je me doute qu'il n'y a pas de problème avec les vôtres. Et ils ont le droit d'embrasser votre conjoint, leur beau-père, ça va c'est...
Oui, mais je trouve que, oui, ils ne sont pas spécialement affectueux avec lui, ils l'apprécient, mais ils sont très... C'est pas une raison. Non, mais ça me pose pas de problème. Mais ça me pose pas que ça me pose de problème. Mais je vous ai tout dit comme ça, un petit peu de brut. Hein, mais c'est dur de tout résumer. Mais je sais que cette relation-là actuelle, c'est la. J'ai manqué d'être rassurée par mon père et cet homme-là me rassure. Comme je sais que c'est ça que je recherche.
Oui, mais là, de toute façon, c'est plus votre mère qui serait
avec
à l'origine.
Qui ne s'est pas mis entre nous.
Ah oui. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est votre mère qui est à l'origine de cette rivalité que vous avez eue pour votre frère, hein, de toute façon.
Oui, donc là, on peut jouer, hein. Ouais.
Oui, donc c'est là où il faut que vous arriviez à travailler sur votre relation à votre mère. Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas donné qui fait qu'aujourd'hui encore vous êtes en demande? Moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous aider à avancer.
Et puis la question des preuves, là vous me parlez de tests, la question des preuves qu'on pourrait avoir ou pas que quelqu'un est digne de confiance, c'est toujours, excusez-moi l'expression, toujours casse-gueule, parce que je ne sais pas bien s'il pourrait y avoir des preuves suffisantes pour ne pas avoir peur. Pour être certaine qu'on ne court aucun risque avec quelqu'un. L'amour, c'est un risque. C'est jamais très rassurant, d'ailleurs. Au contraire. Et en fait, accepter d'entrer en amour, c'est aussi accepter de tenir debout tout seul, d'être autonome avec ses sentiments, ses émotions, et puis de vivre l'autre comme un cadeau, mais pas comme un besoin ou une nécessité impérieuse d'être sécurisé, vous voyez ?
Mais ça, je le sais consciemment. Hein. Là,
oui,
je
c'est
parle
ça.
Vraiment d'un...
C'est qu'après, du cerveau au cœur, il y a tout un trajet.
Oui, parce que... Oui, c'est ça. Parce que je vous en parle avec... en observant mes réactions et, par rapport à mon ressenti. Mais j'ai tout à fait conscience que l'amour est un risque. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu peur de me lancer dans une relation, quitte à souffrir. Ça ne m'a pas empêchée.
Non, mais je pense que vous avez assez, enfin vous exprimez assez clairement quel est le problème que vous avez dans votre histoire. Donc ça, c'est déjà très très bon signe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à le dépasser. Moi, je vous invite vraiment à bien décoder ce que vous ressentez quand justement la petite lumière d'Angers s'allume. Bien sentir ce que vous ressentez et voir comment vous pouvez l'analyser, parce que ça parle de vous, vous avez bien compris, c'est vous, c'est votre histoire, hein. Et puis un petit peu d'humour par-dessus et puis ça va passer, hein. Quand on a, vous savez, la première marche pour guérir, c'est déjà de comprendre ce qu'on
d'être en conscience de soi, et ça vous l'êtes.
Oui. Mais je suis
vous
nous
dites les choses très honnêtement. Bah oui, mais c'est énorme de pouvoir dire ça déjà.
Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, vous pouvez aussi d'une manière très symbolique faire quelque chose. Chaque fois que vous avez un ressenti négatif vis-à-vis de sa fille ou de son fils ou je ne sais, bref, vous mettez un petit euro dans une tirelire. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous achetez un beau cadeau avec ce qu'il y aura dans la tirelire et vous vous réparez. De manière symbolique.
D'accord, ok.
Hein, mais vous faites un vrai beau cadeau. Vous mettez un euro symbolique, hein, à chaque fois que vous avez un ressenti un peu négatif.
Ça, d'accord.
Ça va vous répondre.
Je vais faire un super cadeau, là.
Oui, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, Pauline. Merci, okay. En tout cas. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Et on continue avec Karen qui va répondre à trois questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Ariane Calvo. Bonjour, Karen.
Bonjour à toutes les deux.
Alors, première question, quelle note vous donnez à votre estime de vous-même sur 10? C'est le
facile.
Sujet du jour.
C'est le sujet du jour.
J'aime bien demander des notes. Moi, je suis devenue une maîtresse d'école. Alors ?
Je dirais 6.
Oh non. 6, seulement 6 ?
Ouais.
Avec la jolie voix que vous avez ?
Oui, oui, malgré.
Ben, écoutez.
C'est pas évident et on y travaille. Je pense qu'en vieillissant, on s'améliore sur ce sujet-là. Enfin, quand on a souffert quand on était en carence, on va dire. Sur
bon, allez, on vous donne toutes les deux un petit demi-point de plus, ça, donc ça vous fait 7. 7 sur 10.
D'accord.
Hein, on est d'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de simuler l'orgasme ?
Oui.
Mm-hmm.
C'était pas...
Pourquoi alors ? Pour lui faire plaisir ? Pour que ça se termine plus vite ? C'est des bonnes raisons. Hein.
Oui, alors il y a pu y avoir une fois ou deux où c'était pour que ça se termine plus vite. Ouais. Mais c'était plus parce que mon ex-mari était éjaculateur précoce et qu'il ne voulait pas le gérer, il ne voulait pas faire quelque chose par rapport à ça. Pour essayer de faire en sorte que, malgré tout ce que je pouvais dire, que ça rehausse un petit peu l'estime de soi, sa propre estime de lui.
D'accord. Voilà. Alors ça l'aidait pas à aller maîtriser.
Bon.
Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Attendez, moi j'ai jamais jeté la pierre aux femmes qui ont simulé, parce que je pense que parfois c'est la solution la plus simple.
Hein. Et puis c'est aussi, pour le coup, à partir du moment où on s'assume sur le fait de dire je suis en capacité de ne pas avoir un orgasme, mais ça me dérange pas de ne pas avoir un orgasme, c'est aussi vis-à-vis de soi-même.
Mm-hmm, mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est être capable de reconnaître que j'en ai pas eu, c'est pas grave.
Mm-hmm.
Et ça, ça fait partie aussi des conditions pour lesquelles on peut être amené à ne plus avoir envie de simuler.
Mmh. Absolument, très bien. Je vois que vous avez travaillé sur la question, comme beaucoup de femmes, Karine. Et dernière question, est-ce que ça vous tenterait d'avoir une relation avec une femme ?
Alors ça pourrait. C'est pas forcément très vieux comme ressenti, mais ce serait plus avec quelqu'un que je connais très très bien, une amitié plus, on va dire.
D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Ariane Calvo, elle vous écoute.
Merci. Alors, en fait, par rapport à ce que vous avez évoqué depuis le début de l'émission, et si j'ai bien compris, par rapport à ce que vous avez vécu personnellement, comment on peut aider les gens à ne pas avoir peur dans le cadre d'un changement radical de profession ?
Dans le cadre du travail, alors, cette fois ?
Oui.
Oui, c'est une bonne question.
C'est une question que vous traversez en ce moment ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous freine ?
Oh, plein de choses.
Vous faites des scénarios de « ça va être horrible parce que j'aurai pas les moyens de vivre, parce que... » C'est quoi le souci ?
Oui.
Oui.
Je vais pas y arriver.
Alors, Karine, restez avec nous. On va vous répondre après la pub. Mais là, tout de suite, j'ai mon gagnant. Alors, on va pas le faire attendre. Ah, et oui. Puis, on vous reprend, Karine, tout de suite après. Bonjour, Thibault.
Bonjour.
Bravo, c'est vous le gagnant. Oui. Vous êtes, vous savez que le 7, c'est mon chiffre magique. Hein. Donc,
Moi aussi, je suis né le 7 juillet.
7 juillet. Ah, ben écoutez. Donc vous êtes un petit cancer.
Le 7-7.
Vous êtes un petit cancer. Enfin, ou un petit ou un grand d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis un petit. Bon, en tout cas, c'est le moment donc de vous dire ce que vous avez gagné. Eh bien, vous avez gagné votre ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. C'est donc un kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Donc, vous pourrez vous faire plaisir durant toutes ces fêtes. Et vous avez aussi gagné un ballon de rugby officiel Gilbert avec le logo Sud Radio. Voilà, Thibault.
D'accord. Bah, super. Ma femme va être contente.
Pour le ballon, le ballon.
Non, le chocolat.
Je me doutais. Merci beaucoup Thibault. En tout cas, on continue bien sûr toute la journée avec ce grand sapin de Noël. Si vous vous écoutez, vous aurez peut-être vous aussi la chance de gagner un cadeau Sud Radio. Et puis vous pouvez doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans un instant et on retrouve Karine à laquelle vous allez pouvoir répondre, Ariane Calvo.
Tout à fait.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Ariane Calvo est avec nous, nous évoquons les angoisses d'anticipation et je trouve que la question de Karen est tout à fait dans le sujet, même si on n'est pas dans le domaine amoureux, parce que prendre la décision de changer complètement dans le domaine professionnel, c'est vrai que ça représente un risque, ça développe des peurs, Karen, donc je vous laisse avec Ariane pour qu'elle puisse vous répondre.
Et puis là où c'est compliqué, c'est que c'est aussi des peurs légitimes, c'est ce à quoi je réfléchissais là pendant notre petite pause. Effectivement, comme le disait Brigitte en introduction, c'est important d'être conscient de ses limites aussi et d'une forme de réalisme. On n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés, encore moins avec le travail, puisque du travail dépendent beaucoup, beaucoup de choses, y compris les finances, qui, si j'ai bien compris, est le cœur de votre angoisse là. Est-ce que vous avez fait un budget? Est-ce qu'on est au clair avec le tableur Excel, avec les besoins que vous avez, avec ce que ça peut vous rapporter? Dans quelle temporalité? Tout ça, ça s'appelle le business plan maintenant. Est-ce que tout ça, c'est organisé pour vous?
Ça oui, mais c'est plus le. Alors c'est... en plus il y a le côté quitter le salariat pour de l'entrepreneuriat.
Ben ça c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Comment vous expliquez? Vous allez voir, les bénéfices sont tellement immenses.
C'est ce que tout le monde dit, et, enfin beaucoup disent, mais c'est vrai que il y a des croyances limitantes, c'est-à-dire que quand on a toujours été dans un monde de salariés, avec des parents salariés, être dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément toujours très bien vu de la part de l'environnement, et alors que je trouve ça dommage, oui. mais c'est vrai que c'est pas forcément très bien vu.
Et mais se lever le matin pour travailler pour soi-même, pour un truc pour lequel on croit, auquel on croit profondément, qui a du sens pour nous, où on est obligé de se lever parce que sinon on gagne rien à la fin du mois et qu'on a des bouches à nourrir et qu'on a en premier lieu la nôtre, et ça motive énormément. C'est une source de motivation extraordinaire.
Mais vous avez des personnes de votre entourage qui vous disent que c'est une bêtise ?
Non, c'est plus que tu pourrais peut-être trouver une autre solution, tu pourrais peut-être faire, quitte à changer de travail, tu pourrais peut-être faire autre chose, mais en restant salarié. C'est insidieux en fait.
Il y aura toujours des gens autour de vous pour vous demander de choisir la sécurité. C'est normal, les gens vous aiment autour de vous, ils n'ont pas envie que vous preniez de risques parce qu'ils n'ont pas envie que vous vous retrouviez en danger, que vous ne soyez pas bien. Mais si vous êtes convaincu que ce qui vous fait du bien, c'est de travailler pour vous-même et de donner du sens à votre travail, parce que c'est quand même des heures et des heures dans chaque journée, donc c'est indispensable d'avoir un travail qui fait sens.
Et puis Karen, il y a une chose que vous pouvez vous dire aussi, si jamais ça ne marchait pas, de toute façon, vous pouvez retrouver votre le travail que vous faites. Et visiblement, si vous avez pris cette décision-là, c'est que vous êtes quelqu'un qui sait bosser et qui a de la valeur, professionnellement, sans aucun doute. Votre estime de vous-même, on va lui rajouter un demi-point.
Oui. Et donc, ça rentre aussi en ligne de compte, justement.
Non, mais bien sûr. Mais voyez, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi, à un moment donné, vous avez visiblement fait ce choix parce que c'est un désir chez vous de changer et qui correspond certainement à quelque chose de profond chez vous. Allez-y et faites-vous confiance.
D'accord.
Écoutez-vous votre petite voix intérieure avant celle de tous les autres.
Oui, et puis comme vous, que ce soit sur le plan privé ou professionnel, le fait d'être en capacité parfois beaucoup trop d'échafauder des plans, des stratégies, etc. À la fois, ça peut faire avancer et à la fois, ça fait peur et ça peut être limitant.
Bloquant, oui, exactement.
Bloquant.
C'est pas toujours la bonne idée.
Oui. C'est pour ça que vous parliez de business plan, etc. Mais je l'ai tourné dans tous les sens À la fois c'est positif et
Visualisez-vous dans des scénarios positifs. Pourquoi est-ce qu'on devrait se visualiser dans des scénarios négatifs pour faire les choses bien? Au contraire.
Oui, c'est vrai.
Imaginez-vous heureuse.
Chaque fois qu'il
y a
une petite.
Comme si c'était une manière d'anticiper les potentiels risques.
Mais on croit se rassurer en faisant ça. C'est exactement le contraire qui se passe. On se crée encore plus d'angoisse qu'il n'en faut.
Chaque fois que vous allez avoir une petite angoisse comme ça qui vient dans votre petit cerveau, là, vous allez la chasser en disant c'est mon choix de vie. Et quand on est aligné et qu'on est dans la bonne direction de ses propres désirs, ça se passe toujours bien.
Ça, j'y crois beaucoup aussi, oui.
D'accord ?
D'accord. D'accord.
Comme ça, vous ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives. Marie est avec nous. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir.
Je vous en prie.
Écoutez, j'avais envie de participer à cette émission parce que, alors, moi, c'est pas moi que ça.
C'est pas
moi qui suis oui. En proie voilà, à tous ces problèmes-là. Mais en fait, c'est mon compagnon. Et j'écoutais votre invité Ariane qui disait que quand on aime les gens, bah on a envie qu'ils soient en sécurité, etc. Mmh. Et ben moi, je l'aime, mais parfois j'ai envie qu'ils soient un peu plus en danger en fait, parce que je trouve que il y a trop de moments où en fait je trouve qu'il exploite pas du tout toutes ses ressources, qui sont vraiment multiples et c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. Il s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Et le problème, c'est qu'il se confronte jamais à ses peurs parce qu'il a eu vraiment une enfance moche, pourrie, qui l'a beaucoup abîmé et il s'est beaucoup fait par lui-même. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, il a énormément de peur. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Et il a peur d'être rejeté, il a peur d'être abandonné, il a peur d'être critiqué, il a peur de réclamer un service à quelqu'un, il a peur de pas assurer, il a peur de s'affirmer. Enfin, voilà, il a peur de demander de l'argent, il a peur de demander d'être payé. Enfin, voilà. Donc, il a plein de peurs. Et moi, je trouve que ça le limite. Ça le limite énormément. Et il n'y a pas, j'aurais pas de raison autant pour qu'il ait peur. Et moi, en fait, ce en quoi je crois beaucoup, c'est Nietzsche quand il disait ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Et ça, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de lui dire, essaie, et tu vas bien voir ce que ça va faire. Ça va peut-être être pas spécialement agréable au début, mais peut-être que si tu te confrontes une fois, deux fois, trois fois, bah tu vas y arriver mieux et tu vas avoir moins peur pour la quatrième fois.
En tout cas, Marie, il vous a pas choisi pour rien, parce que en fait c'est bon signe. Il avait manifestement envie de se sortir de ses peurs en vous choisissant.
Ah oui.
Bah oui. Et quand vous lui dites justement qu'il a les capacités à y arriver, etc. Il vous écoute un tout petit peu ou pas du tout?
Non, il m'écoute beaucoup.
Bah alors...
Mais en fait, je sens qu'il est extrêmement... Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas sa psy.
On est toujours un peu le thérapeute de l'autre, vous savez,
oui.
Dans un couple. Et est-ce qu'il a peur de vous perdre?
Oui.
Aussi?
Oui. Mais il sait que je l'aime fort, donc voilà, que je m'accroche.
Ça vous rassure qu'il ait peur de vous perdre? Oh, qu'est-ce que j'ai dit?
Je sais pas. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai pas mal confiance en moi et puis je pense que voilà, si c'est pas
ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait pas, et vous aurez le temps des infos pour réfléchir à ça, ce qu'il faudrait pas, c'est que vous l'ayez choisi en tant que pour être une sauveuse, parce que ça c'est toujours un petit peu embêtant dans une relation, ça finit pas toujours très bien, plus exactement je voudrais pas avoir une angoisse d'anticipation négative, mais vous allez y réfléchir un petit peu, est-ce qu'au fond vous avez pas une tendance à vouloir le sauver, et puis vous nous donnerez la réponse après les infos, et puis Ariane me donnera la réponse à ma devinette, pourquoi dit-on que le couple rend bête. Vous avez le temps des infos et vous aussi vous pouvez nous appeler au 0800 126 300 300 si vous avez tendance à imaginer le pire, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, financier ou par rapport à la santé, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio. On ne parle de tout ça après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous évoquons les angoisses d'anticipation avec Ariane Calvo et Marie nous parle de son compagnon qui est plutôt, lui, en effet, sujet à ce genre d'angoisse. Mais avant de redonner la parole à Marie, je voudrais la réponse à ma devinette. Ariane Calvo, pourquoi on dit que le couple rend bête?
Aucune idée.
Bah, c'est simple pourtant, c'est parce que c'est deux conjoints.
Ah oui, bien vu.
Voilà. Alors Marie, est-ce que vous avez un petit peu une tendance de sauveuse avec votre compagnon ou pas?
Oh bah certainement. Mais j'ai pas mal réfléchi à cette question. Oui. Je peux vous dire, pendant des années, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, et en fait, je pense qu'avec le temps, je laisse beaucoup d'énergie dans ça. Et j'ai de moins en moins envie, en fait. Comme je vieillis, j'ai de moins en moins envie de ça. Et je me dis que même si j'ai des sentiments forts pour lui, je me dis qu'à un moment donné, je laisse trop d'énergie là.
Et oui, bon, c'est petit truc, Marie. Je peux vous donner un petit truc. En neurosciences, on se rend compte que le cerveau va toujours chercher la solution la moins énergivore pour lui. Parce que comme le cerveau homo sapiens est câblé pour organiser la survie de l'espèce, il va chercher à garder toute l'énergie possible en cas d'urgence absolue pour sa survie. Donc, on choisit toujours la solution la moins énergivore. Et en fait, si vous êtes toujours en train de pallier aux angoisses de votre compagnon, il les dépassera jamais, puisque la solution la moins énergivore est que ce soit vous qui portiez les choses. Et qu'il rassuriez de ses peurs. Donc, il ne prend pas le temps, lui, d'aller travailler pour aller se rassurer lui-même, pour prendre des risques. Vous comprenez ?
Et en plus, à force, vous allez l'admirer de moins en moins.
Ça, c'est sûr.
Forcément, c'est normal. Et c'est...
C'est assez intéressant parce que là, en ce moment, il est vraiment à deux doigts, je veux dire, mais vraiment, vraiment, de faire le pas et d'aller consulter parce que je lui ai dit que vraiment, il en avait énormément besoin et que je voulais qu'il y aille. Et en fait, depuis ce moment-là, il fait des rêves, mais incroyables. Mais incroyable. Des rêves où, justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent qu'il ne fait pas lui. Et qui, dans ses rêves, il se met à parler et il est rejeté de tout le monde. Enfin, voilà, des choses comme ça.
Il y a toutes ces peurs qui se réveillent.
C'est affolant. Du coup, c'est des cauchemars, mais incroyables.
Laissez-le gérer. Laissez-le gérer, parce que plus il va faire de cauchemars, plus il va devoir chercher une solution par lui-même pour les résoudre.
Parce que finalement, vous êtes là pour toujours le guider.
Pas toujours, je vous assure que pas toujours.
Non, d'accord, quand même beaucoup. Et forcément, c'est pratique pour lui. Vous voyez ?
Mais au fil des ans, je vous assure que de moins en moins...
Très bien.
Même si je lui dis, il faut qu'il aille. Je fais de plus en plus ma vie seule, entre guillemets, à côté. Et il se démerde en gros, mais c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué.
Parce qu'entre parler à Marie et parler à un inconnu, même psychologue et même soi-disant bienveillant, parler à Marie, ça sera toujours plus simple. Sauf si Marie arrête de donner des conseils et de rassurer généreusement et indéfectiblement.
Il faut que je sois méchante, c'est ça ?
Non, ne passez pas d'un extrême à l'autre. Soyez
c'est ça, à votre place, d'amoureuse.
C'est sa vie, sa vie professionnelle. Ouais. C'est à partir du moment où dans votre couple ça va bien, le reste c'est pas grave. Voyez, laissez-le gérer.
Ça va bien au niveau des sentiments. Mais il n'empêche que c'est pas rose, puisque moi je suis éclaboussée par ses manquements, entre guillemets.
Bien sûr.
C'est-à-dire que
ça vous impacte.
À chaque fois qu'il va dire qu'il va pas oser dire non à quelqu'un, en fait il me dit non à moi.
Oui.
Donc moi j'attends ou pas d'ailleurs, et de moins en moins. Mais voilà, et ça je le lui ai dit à maintes reprises.
Vous savez,
je
crois, Marie, que vous êtes en train de réaliser que si ça continue comme ça, vous allez finir par vous lasser. Donc je crois que là, il ne faut pas hésiter, c'est bientôt Noël. Moi, à votre place, je lui offrirai un carnet de chèques avec 5 consultations chez un bon thérapeute. Et c'est comme ça que ça va avancer. Et dès que vous allez le voir qui fait l'effort d'y aller et qui bouge, vous allez pouvoir continuer à l'aimer, sinon vous allez finir par... Et ça, c'est pour ça que je pense que vous êtes vraiment dans le syndrome du sauveur, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. On veut sauver, puis à un moment donné, l'autre nous met tellement en échec qu'on n'en peut plus.
S'il fait beaucoup de rêves, Marie, l'hypnose, ça peut être un très bon plan. Est-ce qu'il a déjà essayé ça ?
Non, je lui en avais déjà parlé, parce que j'avais une amie qui en faisait. Là c'est pareil, en fait il fait pas confiance et il s'imagine des choses et des choses et des choses. C'est tout, enfin vraiment le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment lui, quoi.
Vous savez, il y a un truc qui marche très très bien quand c'est comme ça, quand il vous dit mais de toute façon il va se passer ça. Il faut lui dire en rigolant oui tu as raison, il va se passer ça, et puis en plus tu vas te casser une jambe.
On rajoute un petit peu. Voyez, c'est comme 100 balles et un Mars, mais version négative.
Vous voyez, comme ça, il comprend bien que vous vous moquez un peu de lui, mais que vous ne rentrez pas dans son jeu.
Exactement.
Donc, essayez ça, déjà, dans un premier temps.
Je vais essayer tout ce que vous m'avez dit, je vous promets.
D'accord.
Je vous crois volontiers, Marie. Merci en tout cas.
Je vous remercie beaucoup.
Mais non, c'est nous. Merci à vous.
Au revoir.
On continue, c'est Tania qui est avec nous. Bonjour Tania.
Oui, bonjour Ariane, bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, moi c'était plutôt au niveau professionnel, niveau des angoisses d'anticipation. Vraiment, le premier CDI que j'ai eu, bon, je suis quelqu'un d'assez positif, on me dit rayonnante, donc toujours très très souriante. Et j'ai compris très rapidement que ça dérangeait certaines personnes. Pour moi, le sourire, c'est une question de respect et de vision de la vie. Et il y a certaines personnes qui ont pensé qu'il y avait un plan derrière, qu'il y avait un objectif. Et très rapidement, dans le service où j'étais, au bout d'une semaine quasiment, j'ai fait le tour de l'usine et j'ai deux personnes qui m'ont mise carrément de côté avec rétention d'informations, etc. J'ai pas compris pourquoi. J'ai essayé de discuter avec les personnes. Je me suis rabaissée aussi parce que je me suis dit tu dois être coupable de quelque chose. Et j'ai su, après avoir quitté le service, donc 5 ans et demi après, parce que j'ai demandé à partir, que c'était en raison d'un couple qui existait dans l'usine, dont on n'avait pas naissance, évidemment, et que ça avait créé des jalousies. Et au niveau professionnel, ça m'a impacté parce que alors pendant un moment, j'ai un peu changé ma façon d'être. Quand j'ai quitté cet emploi, enfin, il y a eu un licenciement économique, je suis restée 10 ans dans l'entreprise. Et après, j'ai eu l'occasion de travailler avec des femmes. Et en général, c'est pas évident. C'est problématique. Et dans l'immobilier, j'ai fait 2 fois 3 ans dans l'immobilier. C'est pareil. J'ai pris l'habitude de parler aux dames directement, presque à ignorer ces messieurs, en ayant peur déjà que je ne sois pas reconnue professionnellement, mais juste en tant que femme et être attaquée ou mise de côté, et finalement que mon professionnalisme ne soit pas pris en compte, mais plus ma personnalité. Donc du coup, j'ai eu tendance à être beaucoup plus posée, moins souriante. J'ai modifié ma façon d'être en travaillant avec des femmes.
C'est toujours délicat, Tania, quand on entend ce genre de témoignage, parce qu'on ne sait jamais si c'est ce que vous projetez ou la réalité. Et c'est difficile, parce que vous, finalement, vous étiez souriante, avenante, de bonne humeur, ça peut déranger certaines personnes, mais après, c'est peut-être vous qui avez, d'une certaine manière, penser que c'était parce que vous étiez comme ça que ça a dérangé. Et si ça se trouve, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, les interprétations qu'on fait, elles parlent de nous, elles parlent pas des autres. Et c'est ce que j'essaye souvent de rappeler, que c'est que l'interprétation qu'on fait sur le comportement de quelqu'un, c'est notre interprétation, c'est pas forcément la réalité. C'est en quoi, dans votre témoignage, moi j'ai du mal à savoir quelle est la part de vous et la part des autres. Hein. Mais encore une fois, j'entends votre souffrance et c'est à celle-là qu'on va pouvoir répondre de toute façon.
Moi, je ne comprends pas bien, j'avoue, de quoi vous êtes suspectée, de séduire ?
Oui.
Ah oui. D'obtenir ce que vous avez professionnellement par la séduction, par le sourire, être avenante, tout ça, et pas par vos qualités professionnelles.
Et c'est les hommes de certaines compagnes qui vous regarderaient peut-être avec trop de convoitise et qui donc fait que des femmes vous en veulent, hein, c'est un peu ça.
Il y a un peu de ça, et puis c'est un petit peu... Alors il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire j'ai eu des contacts, par exemple avec des clients... notamment dans l'immobilier, monsieur m'ont contacté derrière et me tenait des propos, voir est-ce qu'on peut aller boire un café,
oui.
Alors que je n'étais pas du tout dans l'ambiguïté. Donc après, j'ai vraiment réfléchi.
Ça, il ne faut pas être dans l'ambiguïté pour qu'un homme nous rappelle et nous propose d'aller boire un café, hein, Tania. Ça, c'est le lot de toute femme de toute femme d'ailleurs, hein, j'ai rien à ajouter sur... Bon, restez avec nous Tania, on va essayer d'éclaircir un peu la situation.
D'accord, avec plaisir.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Ariane Calvo est avec nous avec ses problèmes d'angoisse, enfin pas vos problèmes, avec un C, hein, et non pas un S, avec ses problèmes d'angoisse, d'anticipation dont on parle depuis tout à l'heure. On le voit, ça peut aussi se projeter sur le problème professionnel. Mais dans votre cas, Tania, je pense que c'est plus une difficulté à savoir qui vous êtes et quelle image vous devez donner aux autres, parce que vous êtes un petit peu perdue dans tout ça.
Alors disons que j'ai réfléchi un peu à mon attitude, effectivement, par rapport aux autres et à la confiance en moi, hein, que j'avais ou pas, effectivement. Et je me suis demandé si j'avais pas endossé le rôle de victime, justement, dont on parlait tout à l'heure, victime, sauveur, bourreau. Savoir si c'était effectivement un problème que j'avais provoqué déjà malgré moi, mais après dans lequel je m'étais enfermée. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver confiance en moi. Et il y a des moments, effectivement, quand je travaillais avec des femmes, j'essaie de dépasser la chose. Et maintenant, je suis assez perfectionniste, en plus, au niveau professionnel. Donc, j'essaie d'être irréprochable, pardon. Mais j'ai ce côté, effectivement, cette faille qui a été créée à cette époque-là. Et par mon côté sauveur que j'ai eu pendant très très longtemps, bon, qu'on garde toujours un peu, je pense, j'ai essayé de dépasser ça et de me limiter à vraiment le côté professionnel en faisant un peu abstraction de ma personnalité.
Mais vous aviez quel âge quand vous étiez comme ça, super souriante et que vous êtes fait un peu agresser?
J'avais 23 ans.
Bon, vous savez, à ces âges-là, on se construit dans le regard des autres, donc soyez indulgente avec vous-même. Vous étiez super souriante, sans doute parce que vous aviez envie d'être aimée, comme on l'est normalement quand on va dans une boîte à l'âge de 23 ans. Et puis, ça a blessé, je crois, quelque chose chez vous qui a certainement réveillé, comme le dirait si bien Ariane Calvo, une blessure d'enfance. Et c'est ça peut-être qu'il faut arriver à élaborer pour vous libérer de ce que ça a créé chez vous et qui a un petit peu certainement bloqué votre spontanéité.
Et au-delà des 23 ans, à tout âge, quand on est une femme souriante, à qui ça ne dérange pas de plaire, qui aime être aimée, qui est joviale, intéressante et qui aime la vie, ça va déranger certaines femmes. Donc on ne va pas s'arrêter et s'enfermer parce qu'on est contente de vivre et d'être soi-même et qu'on se trouve jolie, vous voyez. Ce n'est pas possible de leur donner ça aux gens. Il y aura toujours des gens pour trouver, ou des femmes, pour trouver que c'est agaçant que vous plaisiez. Elles vont travailler sur elles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas à vous de porter ça et d'être irréprochable. Qu'est-ce que vous auriez à vous reprocher dans le fait de plaire?
Eh bien, en fait, non, c'est vrai, rien. Mais en fait, j'aime que ça se passe bien. Voilà, j'ai ce côté.
Alors, qu'est-ce que ça provoque chez vous si ça se passe pas bien?
Oui.
Peut-être tendance à me dire quelle faute tu as faite. Ouais, je retourne le truc contre moi.
Mais oui, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on aurait à vous reprocher?
Et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver à être parfaite?
Et être parfaite, ça voudrait dire quoi? Arrêter de sourire et de répondre aux invitations à boire un café? C'est trop triste.
Non, c'est vrai.
Vous charriez un peu, mais vous avez compris l'idée, je crois.
Oui.
Voyez, parce que vous voulez tellement que tout le monde soit satisfait, vous voulez tellement plaire à tout le monde. Oui. Que vous vous mettez dans une situation tout à fait
Que vous pourriez difficile. Vous éteindre pour satisfaire les autres.
Oui, ça c'est vrai. Et j'ai 53 ans maintenant.
Ah, oh, c'est trop dommage. 53 ans, vous avez encore plein de belles choses à vivre.
Ah oui.
Et avec le sourire, positive, c'est quand même plus intéressant.
C'est vrai, mais au boulot, j'arrive à être souriante, agréable et tout ça par rapport à certaines personnes. Et puis à d'autres, j'avoue, je suis beaucoup plus éteinte. C'est tout à fait ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais en plus, quand vous l'avez exprimé, ça me semble presque ridicule, effectivement, de se mettre plus bas que terre et de s'éteindre complètement par rapport à ce que je peux imaginer.
Mais je ne dirais pas ridicule, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est dommage, parce que c'est votre vie. Vous n'êtes pas en train de vivre la vie des femmes que vous agacez, vous êtes en train de vivre la vôtre.
Et vous voyez, pourquoi vous leur donnez ce pouvoir-là? Ça parle de vous, encore une fois.
C'est ça. Oui, j'entraîne mon pouvoir là-dessus.
Oui, et donc
De la même façon que leur amertume parle d'elle-même.
Oui.
Elles vont s'en débrouiller.
Connaissez cette fameuse phrase, on peut pas plaire à tout le monde.
Oui.
Oui, tout à fait. Le problème, c'est que quand effectivement, il y a des schémas qui sont installés au niveau du cerveau, des schémas limitants. Et comme vous disiez tout à l'heure, le cerveau va toujours ce qui est vers le plus facile ou ce qui est connu.
C'est
et
vrai.
En fait, c'est très difficile au niveau émotionnel, parce que je sens qu'effectivement, ben voilà, il y a des personnes, une personne qui m'apprécie pas, etc. Et d'un coup, ça me fait comme un blocage.
Oui.
Et je m'enferme dans un besoin de perfectionnisme, en fait.
Ben, est-ce que séduire, plaire et se mettre en valeur, c'était mal vu chez vous, en étant enfant, et ado et jeune fille?
J'ai pas entendu la fin
est-ce
de la question.
Est-ce que séduire, plaire et se mettre en valeur, c'était mal vu chez vous, quand vous étiez ado et jeune fille?
Ben, disons que j'ai très tard eu idée, entre guillemets, de séduire. Ça m'intéressait pas, je m'étais mis une carapace de presque de bonne sœur. Voilà.
Mais pourquoi,
et
pourquoi
comme il fallait, comme mes parents l'attendaient, en fait, d'être sage, d'être bien sage.
Ah, donc être sage, c'était être une bonne sœur.
Donc tout s'explique.
Mais oui.
À 23 ans, vous avez dit zut à vos parents. Vous avez dit, ça suffit, papa, maman, vous m'embêtez, je vais séduire le monde.
Et c'est les vieilles pies qui ont pris le relais.
Et
c'est dommage.
Vous voyez, et forcément, comme ce n'était pas suffisamment élaboré, votre revanche vis-à-vis de vos parents, la première qui vous a remis à sa place, c'était une sorte de maman
projetée.
Vous comprenez?
Bon, je vois. En plus, j'étais à l'école chez les sœurs, donc il fallait bien tout.
Ouais, bah oui.
D'accord.
Et ben voilà, donc ouais. Écoutez, la prochaine fois que vous envoyez une qui vous fait les gros yeux, vous l'imaginez avec la tenue de bonne sœur et ça vous fera rire et vous sourirez d'autant plus.
Merci pour cette astuce parce que les images, ça fonctionne bien chez
parfait.
Moi.
Parfait.
Et ben c'est parfait.
Vous en trouvez plein.
Voilà. Et puis quant aux hommes qui vous offrent qui veulent vous offrir un café, ça c'est. Je veux dire, c'est normal.
On a le droit de dire oui ou de dire non.
Et si vous dites non, il ne faut pas vous sentir gêné.
Exactement.
De dire non. C'est votre droit le plus strict. Et puis quand vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de plus, ben, ils ne vous offriront plus de café et vous serez bien triste.
Okay. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Tania, merci, merci à vous. Oui, ben, on arrive toujours à décoder finalement.
Oui.
Ça parle toujours de nous, quoi qu'il arrive.
Toujours de nous et souvent de blessures d'enfance.
Évidemment. Le Love Conseil du jour, dans un instant, aimer et rester libre, est-ce possible? Eh bien, vous le saurez quand vous entendrez ce Love Conseil. Et puis, si vous avez aussi envie de nous raconter comment vous projetez les choses, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Ariane Calvo, vous pouvez évidemment réagir à mon Love Conseil. Aimer et rester libre. C'est vrai que la fusion, c'est notre première relation dès la naissance. On sort du ventre de maman et on n'a qu'une envie, y retourner. Enfin, en tout cas, être en fusion totale avec notre mère. Et c'est normal d'avoir peur d'être indépendant. Et c'est normal de rechercher quand même souvent la fusion. Alors, réussir sa vie de couple et sa vie personnelle, c'est le challenge actuel et je trouve que c'est intéressant parce que les femmes aujourd'hui ont cette possibilité-là, ce qui n'était pas tellement le cas au siècle dernier. Mais c'est un challenge qui est délicat, donc je crois que c'est vraiment déjà important de comprendre que les personnes qui ne veulent vraiment pas s'engager sont parfois celles qui rêvent beaucoup de fusion. Il y a une sorte comme ça d'inverse qu'on connaît bien en psychologie. Donc je crois qu'il faut vraiment apprendre à décoder à quel niveau vous en êtes. Zéro, c'est la volonté absolue de rester seule. Ou 10 sur 10, ce serait vouloir à tout prix être toujours avec son partenaire. Et je dirais que la réalité, elle se situe plutôt entre 5 et 7.
Oui.
Parce que si on est en couple et qu'on veut continuer à rester libre, c'est pas gérable non plus.
Tout à fait. Et puis, c'est accepter aussi qu'on a besoin de l'autre par moment, mais pas que l'autre doive répondre à tous nos besoins, ce qui est très différent.
C'est ça, oui. Et déjà, il faudrait savoir quels sont nos besoins.
Déjà.
Ceux qui peuvent être offerts par l'autre, et puis ceux qui, de toute façon...
Ce à quoi on doit répondre par nous-mêmes.
Exactement. Ouais. Voilà, donc je crois que c'est vraiment important de comprendre où on en est soi-même dans son désir de, à la fois de fusion et de liberté. Ouais. De toute façon, liberté et amour, c'est des mots dont la définition est quand même forcément un peu subjective.
Très, oui.
Donc c'est pas mal peut-être en couple de discuter, c'est quoi pour toi aimer quelqu'un, c'est quoi pour toi
être libre,
hein, ça, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un jardin secret tout petit, et puis oui. D'autres c'est la forêt amazonienne, donc c'est un petit peu compliqué. Et je crois que c'est vraiment important de dialoguer, quelles sont vos plages de liberté qui sont indispensables, à partir de quand vous ne supportez pas que l'autre vous échappe. Ou tout simplement s'échappe, parce que quand il s'échappe, c'est parfois l'impression que vous avez qu'il vous échappe, ce qui n'est pas la même chose.
Et oui.
Donc voilà, tout ça, je crois que c'est important d'en discuter. Et je dirais que c'est surtout important d'en discuter quand on a envie de s'engager avec quelqu'un, qu'on a envie de se mettre en couple. Ça serait vraiment bien de pouvoir parler de ça et pas le découvrir au fil des jours.
Tout à fait. Moi, ce qui m'a souvent aidée en couple, c'est de me demander... ce que j'accepterais, moi, qu'on contrôle dans ma vie, l'autre contrôle. Et du coup, par projection inverse, me dire, mais alors de quel droit je fais des choses que je ne supporterais pas qu'on me fasse. Et ça m'a permis souvent de prendre du recul, de laisser l'autre faire ce qu'il a à faire, vivre ce qu'il a à vivre, et de pouvoir se retrouver dans une forme d'acceptation, confiance, et puis de joie aussi.
Et il faut savoir que quand on est très amoureux dans la première phase, hein, on est réellement dans ce désir de fusion, donc oui. il faut être un peu lucide et un peu conscient quand même qu'on peut pas non plus vivre 24 heures sur 24 complètement collé. C'est pas
souhaitable.
C'est pas souhaitable non plus. Bonjour Juliette.
Bonjour Brigitte, bonjour Ariane.
Bonjour,
c'est ça.
Ah, excusez-moi.
Ben, je vous en prie.
Oui, voilà, moi je vous appelle parce que c'est vrai que l'émission d'aujourd'hui me parle. Parce que, bon, déjà, moi de base, je suis une grande angoissée quand même. J'ai tendance, en général, dans toute ma vie, à avoir des angoisses d'anticipation que j'essaye de gérer au mieux.
Mais ça s'entend un peu dans votre voix, hein, oui. Juliette, je vous rassure. Vous avez raison.
Non, vas-y quand même. Et donc, en amour, voilà, je suis angoissée, je suis seule, ça fait 7 ans. Oui. Donc j'ai l'impression que je ne vais jamais rencontrer personne, voilà. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi rencontre et que moi, j'ai un problème. Alors je ne sais pas trop exactement lequel c'est. Des fois je me dis que c'est moi qui mets des barrières de façon inconsciente parce que j'ai peur de tomber amoureuse. Des fois je me dis qu'en fait c'est parce que je suis peut-être trop dépendante affective. Enfin, je ne sais pas quoi.
En tout cas, vous êtes sûr que de toute façon vous allez rencontrer personne et que tout le monde va rencontrer quelqu'un sauf vous.
Mais en fait, j'ai un peu l'impression, comment dire, c'est un peu exagéré, mais pas d'être maudite, mais voilà que ouais, j'ai un peu cette impression-là.
Oui, ce qui confirme bien votre angoisse d'anticipation sur le plan amoureux.
Ben oui, c'est vrai. Ben je l'avais pas avant, mais voilà, maintenant.
Et jusqu'à quel point vous organisez vous-même la croyance qui vous fait le plus peur? C'est ça la question. Vous posiez la question justement de est-ce qu'inconsciemment c'est moi qui mets des barrières? Est-ce que c'est quoi votre intuition? Vous pensez que ça peut être le cas?
En fait, au départ, je pensais vraiment que, en gros, c'est parce que comme je le voulais trop, ça marchait pas.
Oui.
Et après, j'ai commencé à me dire qu'en fait, c'était peut-être moi. Et ça, c'est les autres qui m'ont, des amis, qui m'ont dit, mais en fait, t'as pas vraiment envie d'être en couple. Et donc, je me suis dit peut-être qu'en fait, c'est l'image que j'envoyais et que du coup, inconsciemment, je, voilà. Parce qu'au début, je pensais vraiment qu'en gros, enfin, c'est parce que je le voulais tellement que ça marchait pas.
Mais en même temps, vous êtes en train de dire que vous avez vraiment envie d'être en couple et que vous avez vraiment envie de tomber amoureuse. Alors, oui. Si vous avez envie de tomber amoureuse, qu'est-ce qui représente un danger dans le fait de tomber amoureuse? Parce que c'est pas tomber amoureuse en soi.
C'est vrai que la dernière fois que ça m'est arrivé, la chute a été difficile. Et puis en fait, c'était quelqu'un qui ne voulait pas être avec moi.
Oui.
Et voilà, et donc ça a été quand on s'est séparés, c'est moi qui suis partie. Et après, il a rencontré quelqu'un d'autre et ça a été très, très difficile.
Vous avez beaucoup souffert.
Oui.
Et vous n'avez pas envie de ressouffrir comme ça.
Mais oui.
Non, mais attendez, je comprends. Hein,
oui.
Mais voyez bien que oui. Tant que vous serez dans cette peur de souffrir comme vous avez souffert, vous n'allez pas pouvoir retomber amoureuse.
Eh oui.
Sauf que les mêmes causes ne reproduisent pas toujours les mêmes effets.
Et puis peut-être on peut commencer par choisir quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, parce que là, vous commencez par dire qu'il ne voulait pas vraiment.
En fait, oui. Bah, et puis après, vous savez, enfin, je sais pas, mais je trouve que souvent, en tout cas moi, et je pense qu'il y a d'autres femmes qui font ça. L'autre, il veut pas, mais on se fait des films, quoi. On se dit non, mais c'est parce qu'il se rend pas compte, il va changer d'avis, patati patata. Enfin, on lui trouve des excuses. Et en fait, au final, bah, c'est nous qui souffrons, quoi.
Oui, donc c'est pas que vous ne rencontrez personne, c'est que la dernière fois vous avez choisi quelqu'un qui n'était pas vraiment vraiment prêt à s'engager, que vous l'avez convaincu un peu jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus.
C'est qu'il n'était pas prêt à s'engager avec moi en fait.
Oui, c'est ça.
Et ça, il vous l'avait dit dès le début.
Ben en fait, il disait non. Enfin, je veux pas. Il faisait des retours, des marches arrière, des marches avant.
Oui, donc vous aviez et vous êtes quand même tombée amoureuse de lui.
Oui, mais parce que je pense, enfin sincèrement, oui. Après je me trompe sûrement, mais je pense sincèrement qu'il était aussi amoureux de moi et que c'est pour ça, parce que ça lui faisait peur et je pense que lui avait une angoisse. Après, c'est mon interprétation, elle est peut-être fausse, mais je pense que lui avait une angoisse.
Et alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il était peut-être lui aussi amoureux de vous? Est-ce qu'il vous appelait? Est-ce que...
Ouais, parce qu'on se voyait tous les jours, il m'appelait le matin, il m'appelait le soir, on faisait tout ensemble, on partageait énormément de moments.
Oui, d'accord,
ensemble.
Donc c'est des éléments...
Il m'a dit énormément de choses, comme quoi j'étais la personne avec qui s'entendait le mieux, et c'est vrai qu'on s'entendait et tout, mais il avait aussi
Il avait une peur phénoménale de s'engager et de vivre...
Il m'a dit, t'as pas besoin de moi. Il m'a dit, je suis avec les autres, parce que les autres, elles ont besoin de moi, et alors que toi, t'as pas besoin de moi.
Ça, c'est vrai que c'est un sujet, Brigitte. Hein. Les hommes, quand on n'a pas besoin d'eux, ils ont du mal, certains en tout cas, nombreux.
Surtout si c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Donc, ouais. Comme vous n'avez pas besoin de lui, il y a toutes les chances que vous l'abandonniez, vous voyez.
Voilà, et moi, j'ai interprété ça parce qu'en fait, je connaissais un peu son histoire. Et il avait, quand il était jeune, il avait eu une relation où il était super amoureux. Et elle l'a quitté. Et c'était pas une. Et elle est sortie avec ses copains, quoi. Elle a couché avec tous ses copains. Et donc, je pense qu'il avait cette peur-là. Et moi, je l'ai interprété comme ça. Sauf que dans ma tête, l'amour était plus fort que la peur et qu'il allait. Voilà.
Non, mais Juliette, ça prouve que vous avez su analyser relativement clairement ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc, il vous aimait, vous l'aimiez. Il n'y avait pas de raison de ne pas insister pour que ça marche. Et puis vous avez été confrontée à un échec parce que c'était plus trop fort pour lui, c'était pas possible, et vous n'avez toujours pas accepté cet échec. Et c'est ça qui vous fait, qui vous empêche, je pense, aujourd'hui de pouvoir à nouveau vous engager et à nouveau aimer quelqu'un. Donc c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir lorsque on ne sait pas faire d'un échec une réussite. Il me semble que quelque part vous êtes alors je ne sais pas si c'est à lui ou à vous-même que vous en voulez de ne pas avoir su vous aimer tous les deux, quoi, parce qu'il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas dans ce que vous dites, en tout cas, hein. Moi je pars de ce que vous nous racontez. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur votre incapacité à accepter l'échec.
Oui.
Moi je constate très souvent que dans les séparations, une fois qu'on a dépassé la phase de manque physique, disons, ce qui est le plus dur à dépasser, c'est toutes nos illusions. Tout ce qu'on avait imaginé qui serait possible avec l'autre, qui finalement n'est pas possible parce qu'il a fait un autre choix ou parce qu'il n'en a pas les capacités et qu'on a cru qu'il les avait, mais il ne les a pas. Donc c'est un constat d'échec, comme dit Brigitte. Et ça, c'est extrêmement dur de renoncer à nos illusions pour les femmes. Alors que si on partait du réel et qu'on se disait, voilà, c'est pas possible, je vais pas y passer 100 ans, c'est comme ça. Le manque, il est dépassé. Maintenant, il faut que j'avance vers quelqu'un qui peut me proposer une vie qu'on puisse construire à deux, qui soit chouette et qui corresponde à ce que j'ai envie qu'elle soit.
Sinon, vous allez rester accroché à cette histoire. et qui vous ne vous plaît plus, puisque de toute façon elle n'est plus, voyez.
Oui.
Il faut renoncer à quelque chose, et renoncer à quelque chose, alors à la fois à vos illusions, Ariane a tout à fait raison de ce que ça aurait pu être. Et puis ensuite, accepter que vous n'avez pas le pouvoir de sur l'autre.
Oui, c'est ça. Oui, non, mais clairement. Puis, après, c'est vrai
si
que
vous
moi,
avez
j'ai
besoin,
accepté...
vous avez besoin de personne. Bien sûr que si, la preuve.
Mais c'est ça en plus, c'est ça qui m'a. Ça m'a vraiment.
Mais vous n'avez peut-être pas su lui montrer à quel point vous aviez besoin de lui.
Oui, ça c'est peut-être. Oui, c'est pour ça que je vous disais, peut-être aussi j'ai une barrière que. Effectivement.
Je crois qu'il faut que vous acceptiez de montrer à quel point vous êtes vulnérable en amour et à quel point vous avez besoin de l'autre parce que vous avez besoin d'aimer et d'être aimé.
Oui.
C'est tout ça qu'il faut. Essayez d'assimiler, et quand vous l'aurez assimilé, je suis sûre que vous serez à nouveau disponible pour quelqu'un.
C'est vrai, et puis parce qu'on entend beaucoup, et c'est vrai que ça c'est un peu effrayant pour moi, parce qu'on entend beaucoup parler de dépendance affective, et en fait moi j'ai toujours peur justement d'être, me dire oh mon Dieu en fait je suis dépendante affective, et je trouve que c'est un peu comme oulala, le méchant dépendant affectif, un peu comme le méchant pervers narcissique.
Oui, c'est vrai que c'est très à la mode. Mais attendez, ça fait 7 ans que vous êtes seule et vous vous tenez debout.
Absolument. Oui. Bon, et puis alors... avoir besoin de l'autre et être dépendant affectif, c'est pas pareil. Avoir besoin de l'autre, on en est tous là, les êtres humains. Tous.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on partage, la condition humaine. Les bébés à qui on ne parle pas, vous savez, cette expérience terrible là, des bébés à qui on ne parle pas, ils meurent. Donc en fait, nous avons toutes et tous besoin de l'autre. Et c'est pas pareil que d'être dépendant affectif.
Merci.
Mais je vous en prie, merci à vous Juliette. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant. J'espère que nous avons Frédéric. Ce serait bien de conclure avec un homme parce que eux aussi, ils ont des problèmes d'angoisse, d'anticipation. Même si ils sont quand même plus dans l'action, quoi qu'on en dise.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
C'est Ariane Calvo qui est avec nous, psychologue, et si vous aimez tout ce qu'elle nous a dit depuis 14h, je vous conseille vraiment son livre « L'autonomie émotionnelle », c'est aux éditions Robert Laffont. Et puis vous pouvez bien sûr consulter Ariane Calvo qui peut guérir vos blessures d'enfance, enfin en tout cas vous aider à les guérir. Frédéric, merci d'être avec nous, je suis ravie quand même qu'on ait un homme qui nous appelle sur ce thème, parce que sinon on va croire que c'est tout le temps les femmes qui sont complètement anxieuses et que les hommes ils continuent à les chasser le mammouth,
c'est ce qui me venait aussi.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Brigitte, bonjour Ariane.
Bonjour.
Oui, écoutez, non, je pense pas que ce soit les femmes plus que les hommes, parce que les hommes sont peut-être habitués à pas trop parler.
Oui.
On va dire.
Ça, c'est pudique sur leurs angoisses.
Ça, c'est vrai.
Et garder leurs émotions.
Ouais. Mais en même temps, ils vont agir. Hein. Une femme va avoir besoin de ressasser, d'appeler sa copine, de parler. Un homme, il va aller couper du bois ou bricoler ou pour prendre sa moto. Enfin, vous voyez, il y a un fonctionnement qui est quand même biologiquement différent.
Ouais.
Hein. C'est-à-dire, je pense que l'homme va plus évacuer, essayer d'évacuer le stress.
C'est ça, par l'action.
Voilà.
Et puis, on vous éduque plus à prendre des risques, j'ai l'impression. Là où nous, on nous garde un peu comme des petites choses fragiles, là, à ne pas trop se mettre en danger. Et j'ai l'impression que c'est valorisé que vous vous mettiez un peu en danger, vous.
Je pense que avec les générations, enfin de ma génération, c'était comme ça beaucoup,
oui.
Et que ça évolue quand même maintenant,
oui,
de plus en plus, je pense.
Vous avez complètement raison.
Enfin, j'espère.
Oui, ça évolue. Mais bon, ça évolue, oui. Mais on a aussi notre cerveau qui n'est pas pareil. Hein.
Bien sûr,
qui n'est pas formaté pareil, mais bon. Alors racontez-nous, Frédéric, qu'est-ce qui se passe ?
Moi, pour dire, je pense arriver à justement maintenant avec l'âge entre guillemets, je suis pas non plus une cinquantaine d'années, donc avoir pu comprendre beaucoup de choses sur j'ai été en une relation d'une trentaine d'années avec la même personne, et puis là actuellement, je suis avec une compagne depuis 3 ans où je suis complètement différent, si vous voulez. J'évacue, je veux plus ce stress-là. Mmh. Ce stress-là, j'ai été quelqu'un qui qui, je pense, de par justement mon éducation et la vie faisant, grosso modo, j'ai eu une mère qui était là, qui était présente, mais qui s'est plus comme quelqu'un des années 60, on va dire, elle s'est trouvée un mari, et puis pour sortir de son ambiance familiale et autres, et après, elle a, une fois qu'elle a commencé à s'émanciper, quoi, on va dire, et bon, c'est arrivé en plein dans l'adolescence.
C'est-à-dire, elle a pris des amants?
Oui.
D'accord. Et vous étiez adolescent à ce moment-là?
Oui. Moi, ouais, oui, oui.
Et elle vous le disait, elle vous le disait, ou vous l'avez vu, ou comment?
Disons que moi, je m'en suis rendu compte, et j'ai un frère... qui lui n'a pas trop le même caractère sur des choses, et oui, elle se confiait plus ou moins à lui, apparemment. On en avait parlé.
D'accord.
Moi, elle a essayé de le faire, mais à 15-16 ans, j'étais un peu brute de décoffrage. Donc, quand je vous dis élevé dans les années 70, c'était ou noir ou blanc.
Oui, oui. Oui, donc ça a marqué votre adolescence, c'est normal.
Je pense, oui. Et je suis tombé amoureux à une vingtaine d'années. Avec une personne, j'enchaînais un petit peu plus, j'étais plus sur des relations pas stables et plus physiques que amoureuses à l'époque.
Et vous voulez dire que c'était compliqué pour vous de vous engager parce que vous aviez peur d'être de choisir une femme qui serait pas fidèle?
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Et celle que vous avez épousée donc pendant 30 ans, elle était fidèle ou pas?
Je peux pas le savoir. On n'est jamais sûr de rien, mais comment dire, je pense.
Oui, oui, non, mais vous avez l'impression, oui, c'est déjà.
Je pense,
et
bon,
c'est votre ressenti,
que...
bien sûr, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il y a des femmes fidèles, hein, Frédéric.
Bien sûr.
Donc restons sur cette sensation.
Voilà,
Et malgré que, pardon.
Oui, malgré que, à l'intérieur de moi-même, j'ai toujours eu la peur et l'angoisse
c'est
que.
Ça.
Voilà.
Que vous avez quand même suggéré, parce que visiblement, vous ne lui avez pas fait de scène de jalousie, vous ne l'avez pas surveillé, vous l'avez.
C'est arrivé. C'est arrivé.
Ouais.
Le problème, il est qu'avec ce genre d'état d'esprit, on a vite tendance à aller dans des addictions. Donc, j'ai été addict au cannabis, un peu à l'alcool aussi. Et
D'accord.
Donc, dans ces moments-là, quand plus avec l'alcool que le cannabis ne rendait pas comme ça, mais l'alcool, des fois, passé un certain stade, on peut avoir tendance à être un peu désagréable.
Ça rend con, oui.
Oui, et voilà, alors, on est d'accord.
Comment vous avez dépassé cette peur d'être trompé, puisque là, vous dites que votre nouveau couple n'est pas dans ces inquiétudes-là?
Parce que j'ai pris du recul. Mm-hmm. J'ai pris du recul, et puis effectivement, sur la fin de la relation, je pense qu'elle avait quelqu'un d'autre, sur l'ancienne relation. Donc après, j'ai réfléchi sur beaucoup de choses, et avec ma nouvelle compagne, je suis pas... Je suis pas allé dans j'ai pas pris quelqu'un avec qui je suis tombé red dingue comme quand on a 15-20 ans et que l'amour fou, tout ça. Moi, je suis plus dans la construction d'une relation et l'épanouissement.
Et donc elle est du même avis que vous, visiblement. Vous êtes retrouvé sur la même éthique.
On se retrouve sur des choses. Maintenant, elle m'a dit qu'elle est tombée amoureuse. Donc, dans le cadre principal. Bon, après, son parcours de vie fait que elle est aussi elle a aussi peur de ça.
Oui, mais en même temps, si elle est amoureuse, elle restera, pour l'instant, elle est fidèle, hein, parce que généralement, quand une femme est amoureuse, c'est rare qu'elle soit infidèle.
Non, j'ai pleinement confiance et je me dis que de toute façon, après c'est ce que je me suis dit, de toute façon, quel est le but, arrivé à une cinquantaine d'années, quel est le but et le principe de s'embêter à avoir plusieurs relations, quoi. Voilà, si ça va pas sur le plan physique, on s'en parle.
Oui.
Si moi je lui en parle, je suis toujours ouvert. Hein. S'il y a des choses qui lui vont pas ou des choses qui me conviennent pas, on en parle, quoi. Donc je suis plus. Voilà, ça. Dans mon ancienne relation, oui, je suis allé voir ailleurs à cause de. Justement, parce que j'avais des besoins physiques, beaucoup.
Vous voulez dire sexuels?
Il y a eu une période. Oui, voilà.
On met toujours des périphrases à ce mot-là.
Oui, oui, j'avais des besoins, donc je pense que c'est pour ça qu'aussi ma première compagne m'a pas trompé non plus, parce que j'étais pas, je sais pas, après je veux pas tomber dans l'espèce de vantardise, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de relations, au moins 2-3 fois par jour, pendant une bonne dizaine d'années.
Ce qui était donc aussi une addiction.
Peut-être, oui, c'est vrai. Peut-être.
Mais pourquoi pas, hein, c'est une addiction qui a priori n'a pas de, ne met pas en danger, donc on voit pas.
Oui. Et ma foi, oui, qui est agréable.
Donc vous avez le sentiment quand même d'avoir bien avancé sur vos problèmes d'angoisse d'anticipation finalement.
Je pense.
Vous avez arrêté les scénarios parce que très souvent la jalousie c'est effectivement c'est intéressant, on est bien dans le sujet là, c'est des scénarios, on s'imagine que l'autre a parlé avec quelqu'un, que quand il lui a parlé, il sourit un peu trop, elle sourit un peu trop, et que peut-être ils s'étaient déjà vus, ils se connaissaient déjà, mais ils ont fait semblant qu'eux, etc. Toutes ces petits scénarios se déclenchent plus dans votre tête ?
Non. Pendant longtemps, avec ma nouvelle compagne, non, j'ai pas de scénario. Bon, après, elle m'a... Elle va pas discuter de ça comme ça. Et enfin, de ce que je sais, c'est elle m'a dit clairement les choses aussi. Voilà, elle recherchait pas ça. Le côté comment dirais-je, les aventures ou autres avec des personnes. Non, elle est vraiment dans la relation. Bah voilà. Après, comme je dis, il y a eu des faits. On a vécu ensemble pendant un an et demi. Il s'avère qu'elle a des enfants, moi je les supportais pas, et je ne supportais pas la manière dont elle les a élevés ou autre, donc après chacun fait comme il veut, je la juge pas, je l'ai pas jugée, mais comme je lui ai dit, je pense que je vais prendre un appartement tout seul, ouais. Et qu'on va continuer notre relation tout seul, pas ensemble, mais chacun chez soi.
Oui, c'est bon. Écoutez, vous semblez assez lucide hein, oui. Sur cette relation.
Bah elle voulait qu'on ait une relation, enfin qu'on vive ensemble, mais que tous les deux. Elle m'a proposé ça. Je lui ai dit que c'était pas possible, bon, par rapport à son caractère, et que parce que voilà, si survenait un problème avec ses enfants, on allait les récupérer. Moi ça je supporterais pas, donc ça amènerait ça fatalement à la rupture, plus que le reste de non confiance.
C'est là où on voit, Ariane Calvo, à quel point ces familles recomposées posent des problèmes.
C'est
fou, parce que ce que nous raconte Frédéric, là, tout le monde va le vivre, enfin, tout le monde, toutes les familles recomposées vont le vivre pendant les fêtes, avec tout ce que ça comporte.
C'est le deuxième témoignage sur le site, quelque part, en ce sens. C'est très compliqué, les familles recomposées, et trouver sa place en tant que beau-parent, je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric, mais c'est très difficile d'être au bon endroit.
Oui, mais je crois que Frédéric, il a choisi hein, de laisser justement de la distance, qui n'est peut-être pas idiot d'ailleurs, hein, si en effet c'est difficile. Merci en tout cas, Frédéric, merci beaucoup. On va laisser la place, bien sûr, à Alexandre Dolovan, qui pourra vous aider si vous en avez envie. Ariane Calvo, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. On voit bien hein, que c'est un vrai sujet.
Oui.
Et peut-être qu'en fin d'année, c'est d'autant plus un sujet, parce que tout le monde projette 2024.
Sur l'année d'après, bien sûr.
Donc, soyons zen.
Exactement.
Chaque jour suffit sa peine.
Voilà, un bon dit-on.
Merci beaucoup, Ariane Calvo. Je rappelle le titre de votre livre, L'autonomie émotionnelle. Et alors, demain, on va aborder un vrai sujet avec Christian Jamin, qui est gynécologue. On va essayer de comprendre s'il y a réellement une différence entre la jouissance clitoridienne et la jouissance vaginale.
Voilà.
Et oui, voilà le vrai sujet.